Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce jeudi 18 novembre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse et Christophe Mallet pour une heure en français. Au cours de cette émission, le journal Les Sports, le journal de l'économie en Australie. Et on fera le point sur le dernier album Astérix et le Griffon. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce jeudi 18 novembre, les résultats d'un test génomique visant à déterminer si deux clusters de COVID-19 dans le territoire du Nord sont liés devraient être publiés ce jeudi 18 novembre. La plupart des restrictions dans le Victoria seront levées à minuit ce soir, avec les habitants de l'État pouvant profiter des visites à domicile sans restriction et des rassemblements en plein air. Les résultats d'un test génomique visant à déterminer si deux clusters de COVID-19 dans le territoire du Nord sont liés devraient être publiés ce jeudi 18 novembre. Les cas acquis localement ont été enregistrés hier et ils sont tous des habitants des communautés aborigènes du Northern Territory. Le ministre du Territoire du Nord, Michael Gunner, a déclaré que les gens devaient continuer à se faire tester.
Waited because you didn't think COVID would get here. It's here. If you waited because you didn't think COVID was a serious virus, well, you're wrong. The virus has killed 5.1 million people in the world. I fear it will take lives in the territory before the year is out. Please, please don't let it be your life. The vaccine is your best defense.
La plupart des restrictions dans le Victoria seront levées à minuit ce soir, avec les habitants de l'État pouvant profiter des visites à domicile sans restriction et des rassemblements en plein air. Les limites de densité pour les lieux d'accueil sont également supprimées, mais les masques seront toujours obligatoires dans certaines situations, dans les commerces à l'intérieur, les visites à l'hôpital, dans les écoles et les transports en commun. Les règles d'isolement changent également. La plupart des personnes qui ont été en contact avec un cas positif à l'extérieur de leur domicile n'ont besoin que d'un test négatif pour sortir de l'isolement. Le premier du Victoria, Daniel Andrews, a déclaré que l'État devrait atteindre 90% des doubles doses de vaccination ce week-end.
That is people 12 and over will pass through the 90% double dose gateway. That's phase D of the national plan. Or to put it another way, that is a quite amazing achievement. On behalf of every single Victorian, can I say that our state should be proud, and the government is very, very grateful to the more than 5 million Victorians who've gone and got a first dose, and we're so close to everybody who's had a first dose getting a second dose.
L'ancien ministre travailliste dans le Victoria, Adam Somyurek, prévoit un retour au Parlement pour bloquer le projet de loi sur les pouvoirs qui permettrait de donner plus de pouvoir au chef de l'État et à son ministre de la Santé pour déclarer des lockdowns en cas de pandémie. Des manifestants anti-verrouillage et anti-vaccin se rassemblent devant le Parlement du Victoria depuis lundi dernier, scandant liberté, certains proférant des menaces de mort contre le chef de l'État. Daniel Andrews déclare qu'il est déterminé à ne pas laisser, je cite, à une petite foule la possibilité de dérailler le processus.
They are essentially attacking the safety of my family. Be really clear and hear this message. I will not be deterred from the work I'm doing to keep every family safe. And I wouldn't want the appalling, the disgusting and the potentially criminal behaviour of a small number of people to detract away from the amazing job that so many Victorians have done.
Des menaces de mort, de viol et d'attentats à la bombe ont incité le premier d'Australie occidentale, Mark McGowan, à fermer son bureau électoral à Rockingham. Cela survient alors que Mark McGowan et les membres de son personnel ont été ciblés pour leur gestion de la pandémie de COVID-19, y compris l'imposition de vaccination obligatoire. Mark McGowan déclare que les messages sont dégoûtants et honteux. La Prostate Cancer Foundation of Australia vise à sauver la vie de plus de 16 000 hommes d'ici 5 ans, appelant à doubler le financement de la recherche en Australie. Le directeur général de la PCFA, le professeur Jeff Dunn, a déclaré que davantage de cancers étaient détectés à un stade ultérieur, ce qui indique qu'une formation supplémentaire est nécessaire pour encourager les hommes à se manifester et à être testés plus tôt.
If you have a father or a brother who's had prostate cancer, please talk to your general practitioner about prostate health. You know, it can strike at any age. It's more common in older men, but it is a disease that can appear in younger men as well.
L'Australie espère qu'une campagne touristique va attirer les voyageurs de Singapour avant la reprise des voyages sans quarantaine dans les deux sens entre les deux pays concernés. À partir de dimanche prochain, les habitants de Singapour entièrement vaccinés peuvent arriver en Australie avec juste un test négatif de COVID-19. La directrice générale de Tourism Australia, Philippa Harrison, a déclaré au Nine Network que c'était un bon début.
Which is our sixth largest market and one that comes to Australia often and spends well. They spend about $3,500 every time they come here, and that's only second to the US market and worth about $1.5 billion to the Australian economy. And so, you know, it's not going to make up for the loss of international, but surely it's a great start.
Ailleurs dans le monde, le porte-parole de la chancelière allemande, Stefan Siebert, a déclaré qu'Angela Merkel s'était entretenue avec le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, au sujet de la crise des migrants le long de la frontière avec la Pologne. Alexandre Loukachenko a accepté de s'entretenir avec l'Union européenne. La Russie appelle l'Azerbaïdjan et l'Arménie à faire preuve de retenue à la suite des récents affrontements à la frontière des deux pays. Le conflit est le pire déclenchement des hostilités depuis une guerre de 6 semaines l'année dernière dans la région séparatiste du Haut-Karabakh qui a tué quelque 6 600 personnes. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Çavuşoğlu, a quant à lui réaffirmé le soutien de la Turquie à l'Azerbaïdjan, appelant les responsables arméniens à cesser les provocations.
We said it at the very beginning. Azerbaijan is not alone and it will never be alone. We say it again now. Armenia must see that these provocations are futile. It has to have seen it already. They have not brought any results and they will never bring results.
L'Inde ferme 5 de ses 11 centrales électriques au charbon autour de la capitale New Delhi afin de lutter contre la pollution. Cela fait suite à une interdiction de construire des centrales électriques au charbon et à la fermeture indéfinie de toutes les écoles et collèges. La directrice du Centre pour la science et l'environnement de New Delhi, Anumita Roy Chowdhury, déclare que ces mesures d'urgence drastiques doivent empêcher la situation d'empirer.
But it is not a silver bullet that is going to just clean the air immediately, because what has already got loaded in the atmosphere, that can go only when a strong wind will come to blow it away. Otherwise, you can do nothing about it. So all you can do is by taking these measures that you don't add more to the load that is already there.
En Allemagne, la CDU qui va désigner grâce à des primaires le prochain dirigeant pour remplacer Angela Merkel. Ils sont trois en lice. Explication de Pascal Thibault pour Radio France Internationale.
Trois hommes pour une présidence et une boîte noire pour cette première, les 400 000 membres de la CDU qui vont désigner leur prochain dirigeant. Après son échec historique en septembre, le parti Sonne a choisi, faute de véritable alternative, d'innover avec une primaire procédure qu'avaient utilisée les sociodémocrates il y a 2 ans. Deux des candidats sont des récidivistes, le conservateur Friedrich Merz, 66 ans, proche des milieux économiques, a échoué 2 fois lors d'un congrès à prendre la présidence de son parti, il y a 3 ans et au début de l'année. Pour compenser ses handicaps, son âge et son profil politique, il s'est entouré d'un collègue issu de l'aile sociale de la CDU et d'une femme. Norbert Röttgen, président de la commission des affaires étrangères du dernier Bundestag, est un centriste comme le troisième homme que l'on n'attendait pas, le chef de la chancellerie Helge Braun, proche d'Angela Merkel, mais peu connu du grand public. Friedrich Merz s'est souvent présenté comme le favori. Il l'est sans doute parmi les plus âgés, les Est-Allemands et ceux qui sont proches des milieux économiques. Mais beaucoup des 400 000 membres de la CDU ne sont pas actifs politiquement et un pronostic est donc difficile. Les 3 hommes vont se présenter jusqu'à début décembre avant qu'un premier tour ne les départage.
14 manifestants ont été tués par balles hier lors de manifestations dans la banlieue nord de Khartoum. Des manifestations contre le coup d'état militaire du général Al-Burhan. Claire Farge, RFI.
14 morts, dont 7 abattus dans la seule banlieue nord de Khartoum. C'est le triste bilan avancé par un syndicat de médecins pro-démocratie. Les forces de sécurité, vous le disiez, ont tiré à balles réelles, selon les témoins. Elles visaient la tête, le cou ou le torse, c'est-à-dire le haut du corps. C'est pourquoi les représentants des manifestants parlent de meurtres prémédités, des meurtres préparés à l'avance. Les Soudanais étaient moins nombreux ce mercredi à descendre dans la rue que lors des 2 dernières manifestations, car les communications et Internet ont été coupées par les autorités, mais ils étaient encore des milliers à réclamer le retour à un pouvoir civil. Et à l'heure où nous parlons, il y a encore des barricades dans les rues de la capitale. Mais le général Fatah Al-Burhan, le chef de l'armée soudanaise qui a pris le pouvoir il y a 1 mois et qui a mis le premier ministre Hamdok en résidence surveillée, ne semble pas envisager de retour en arrière, malgré les nombreux appels de l'administration américaine. La répression des manifestants au Soudan a fait plus de 34 morts, dont 3 adolescents, depuis le putsch du 25 octobre.
En France, les partis civils ont commencé à plaider au procès de Éric Zemmour, le polémiste d'extrême droite, pour ses propos controversés sur les migrants mineurs isolés. Reportage Pierre Olivier pour RFI.
D'entrée de jeu, la présidente du tribunal prévient « Je serai particulièrement vigilante à la sérénité des débats ». Une poignée de minutes plus tard, elle menace pour la première fois de suspendre l'audience. En cause, des désaccords entre les avocats des partis civils et ceux de la défense d'Éric Zemmour. Le ton monte rapidement, des doigts menaçants sont pointés d'un côté et de l'autre du prétoire. Éric Zemmour, lui, est absent, comme la loi l'y autorise, mais ses conseils font valoir la nullité du dossier et demandent un report de l'audience. D'après eux, il n'y a rien à reprocher à Éric Zemmour, qui, lorsqu'il parle des mineurs isolés, ne fait ni référence à une race, ni à un pays. La complicité de provocation à la haine raciale n'est donc pas caractérisée, plaide-t-il. Face aux 2 avocats du polémiste, pas moins de 37 parties civiles, parmi elles de nombreux départements qui prennent en charge des mineurs isolés et ont décidé de porter plainte. Éric Zemmour laisse entendre que tous les mineurs isolés sont des délinquants en puissance. C'est l'essence même du racisme, estime quant à lui l'avocat de SOS Racisme, également constitué partie civile.
On passe à la météo pour ce jeudi en Australie. À Perth, il fera 25 degrés. Adélaïde, 29. Melbourne, 25. Hobart, 16. Canberra, 23. Sydney, 26. Brisbane, 26 également. Cairns, 32. Darwin, 36. Et à Alice Springs, maximal de 35 degrés. Un rappel des grands titres de ce jeudi 18 novembre. La plupart des restrictions dans le Victoria seront levées à minuit ce soir, avec les habitants de l'État pouvant profiter des visites à domicile sans restriction et des rassemblements en plein air. Voilà, fin du journal et dans quelques instants, le journal des sports en compagnie de Christophe.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Thank you. Journal des sports, et on commence avec bien du football et la qualification des Bleus pour la Coupe du Monde au Qatar. Après une campagne et des débuts de qualification un tout petit peu difficiles, les Français sont vraiment réveillés. Très beaux matchs qui ont suivi et une victoire dans ce dernier match donc contre la Finlande. Retour sur cette victoire et réaction de Didier Deschamps, le sélectionneur français.
On finit l'année civile invaincu, même si, bon, pour certains et pour moi, match nul contre la Suisse, c'est une défaite malgré tout, mais l'équipe de France a prouvé encore une fois la qualité, l'état d'esprit, le mental, et confirme qu'elle reste très compétitive. C'est de la fierté pour moi, avec ce groupe-là, cette force-là. Évidemment, il y a eu des améliorations, il y a encore des choses qui sont perfectibles, mais à travers les matchs que l'on a pu faire, un peu plus sur cette fin d'année, où on a une capacité de maîtrise qui est supérieure, du danger permanent pour l'adversaire et une efficacité qui est importante aussi.
Voilà donc Didier Deschamps, retour sur ce match donc contre la Finlande avec Antoine Grenier.
Oui, l'équipe de France qui termine 2021 de la meilleure des manières face à finalement une décevante équipe de Finlande éliminée de la course au Mondial 2022. Les Bleus ont eu du mal en première période, ne se sont pas forcément montrés très dangereux, si ce n'est par l'intermédiaire de Moussa Diaby en tout début de rencontre. Et finalement, ce succès y porte l'empreinte de deux hommes, plus particulièrement Karim Benzema et Kylian Mbappé, le madrilène auteur de l'ouverture du score à la 66e minute sur une frappe contrée qui n'a laissé aucune chance au gardien. Et puis le parisien Kylian Mbappé, buteur 10 minutes plus tard dans son style caractéristique. Il récupère le ballon le long de la ligne de touche et pique un sprint de 40 mètres avant d'aller battre Radetzky. Son 24e but en équipe de France, Benzema et Mbappé qui ont marqué tous les deux lors des quatre derniers matchs de l'équipe de France. Soirée de record collectif aussi pour les Bleus qui égale les 27 matchs sans défaite de l'époque Deschamps capitaine. Bref, une année 2021 conclue de la meilleure des manières.
Antoine Grenier, allez, le point sur la zone Europe et les autres qualifiés donc pour cette Coupe du Monde du Qatar avec Hugo Moissonnier.
Avec 13 places, rien que pour elle, l'Europe doit théoriquement pouvoir emmener tous ses cadors dans le golf. La France, l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne et l'Allemagne ont tenu leur rang et sont déjà assurés d'être du voyage. En revanche, d'autres grandes nations devront encore cravacher pour faire partie de l'expédition. Parmi les barragistes, l'Italie, grande absente du Mondial 2018, mais sacrée championne d'Europe il y a quelques mois à peine. Le Portugal, prédécesseur de la Squadra au palmarès de l'Euro, va également disputer des matchs couperés au mois de mars. Cristiano Ronaldo n'est pas certain de vivre un cinquième mondial dans sa carrière. En phase de groupe, son équipe a été dominée par une Serbie que personne n'attendait à ce niveau. L'Italie, quant à elle, n'a pas réussi à terminer devant la Suisse, une sélection qui signe une nouvelle prouesse après avoir éliminé la France du championnat d'Europe. Moins surprenante, mais pas forcément évidente, la qualification directe de la Croatie, équipe vice-championne du monde en titre, mais vieillissante. Celle des Pays-Bas, de retour après avoir raté l'édition 2018 en Russie. Enfin, après un euro exceptionnel, le Danemark s'est sorti d'une poule facile. Il valide son billet pour le Qatar.
Hugo Moissonnier, on fait un dernier point sur le football et la zone Afrique, toujours pour cette qualification de Coupe du Monde, avec Sofiane Namadiane.
Oui, les Lions Indomptables ont rugi au meilleur des moments. Deuxième du groupe D avant cette finale face à la Côte d'Ivoire, le Cameroun s'est imposé à domicile sur le score de 1-0 grâce à un très joli but du Lyonnais Karl Toko Ekambi en première période. Et donc avec 15 points zéphyrins, le Cameroun se qualifie pour les barrages, mais à l'inverse, énorme désillusion pour les hommes de Patrice Baumel qui manqueront leur deuxième mondial consécutif après celui de 2018 en Russie. Les Algériens se qualifient dans la douleur pour la suite des éliminatoires face au Burkina Faso à domicile, score final 2-2 au terme d'un scénario haletant sur la pelouse détrempée de Blida. Les Fenech terminent tout de même en tête du groupe A avec 14 points. L'Algérie qualifiée mais bougée par le Burkina Faso. Tunisie s'est facilement défaite de la Zambie 3-1, ce qui permet aux Aigles de Carthage de terminer solide leader de leur poule avec 13 points au compteur. Déjà éliminée, la Mauritanie a fait match nul contre la Guinée équatoriale sur le score 1-0. dans la poule C. Sans surprise, hein, c'est le Nigeria qui valide son ticket pour les barrages. Les Super Eagles n'avaient besoin que d'un point pour se qualifier et ce fut chose faite face au Cap-Vert. L'Égypte s'est imposée face au Gabon 2-1, match nul entre la Libye et l'Angola, un but partout. Victoire du Mozambique face au Malawi, 1-0. Le Libéria s'est défait de la Centrafrique 3-1. Et puis le Maroc, déjà qualifié, termine sur un sans faute, 6 victoires en 6 matchs. Une victoire face à la Guinée sur le score de 3-0.
Sofiane Namadiane, voilà un mot de tennis pour conclure ce journal des sports et la disparition inquiétante de la chinoise Peng Shuai. La joueuse chinoise avait porté plainte et accusé l'ancien premier ministre chinois tout simplement de viol. Et depuis, on n'a plus entendu parler de Peng Shuai. Juste un message laconique et rassurant, entre guillemets, de la fédération chinoise à l'association des joueuses mondiales. Que dire de cette disparition avec Christophe Diramzian et la réaction de quelques autres joueuses?
La censure n'est jamais acceptable, quoi qu'il advienne. J'espère que Peng Shuai et sa famille sont en bonne santé et vont bien. Aussi sobre qu'elle soit, la préoccupation de Naomi Osaka, qui se dit choquée par cette disparition, a le mérite d'exister dans un milieu du tennis pour l'heure très discret sur la question. Seule la française Alizé Cornet, l'ancienne star américaine Chris Evert et le numéro 1 mondial Novak Djokovic ont utilisé sur Twitter le mot-clé de mobilisation « Où est Peng Shuai ?» censé interpeller les autorités chinoises. Quant aux dirigeants de la WTA chargés de gérer le circuit féminin, ils affirment avoir reçu des assurances que Peng Shuai est en sécurité, tout en reconnaissant ne pas avoir pu joindre directement la joueuse pour confirmation. Dans cette affaire, l'instance marche sur des œufs, car la Chine est devenue ces dernières années son principal levier de développement économique. Elle a signé un contrat record de 10 ans avec la ville de Shenzhen pour la tenue annuelle du Masters féminin et a attribué en 2017 l'exploitation des droits numériques de ces tournois sur la même durée à une plateforme de vidéos en ligne chinoise moyennant 120 millions d'euros. Difficile donc de demander davantage de comptes au nom des droits de l'homme et de la femme à l'égard d'un pays devenu l'un de ses principaux marchés.
Voilà donc pour cette disparition inquiétante de Peng Shuai. Ça conclut notre journal des sports pour aujourd'hui. Courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez l'émission en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Et comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Oui, bonjour, Jean-Noël.
Et on parle de la politique de l'immigration et pourquoi les économistes au sein du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud qui font appel pour une hausse dramatique du taux d'immigration.
Oui, c'est vraiment très intéressant là. Bon, ça vient en même temps que les frontières internationales commencent à rouvrir là. Et donc, selon ces bureaucrates en Nouvelle-Galles du Sud, l'Australie devrait accueillir 2 millions d'immigrants pendant les prochaines 5 années. Donc à peu près 400 000 personnes chaque année, ce qui est beaucoup plus qu'en ce moment. Mais ils disent qu'on a besoin de se rattraper après la pandémie, quand les frontières étaient fermées. Et vraiment parce que aussi, selon les économistes, il y a plusieurs théories à propos de la croissance économique, de ce qui fait pousser une économie, et celle qui a été adoptée par les économistes dans les trésoreries australiennes, c'est celle des 3 P, donc la population, et la participation et la productivité. Et ils disent que vraiment, maintenant, c'est la population qui est vraiment la seule des P sur laquelle on peut vraiment compter, parce que ils disent qu'il y a des problèmes avec le taux de participation, que peut-être que on est déjà au sommet de ça. C'est difficile d'en faire plus, parce qu'ils disent que depuis les années 60 ou 10, le taux de participation est monté de 60% à 66,3%. Et vraiment, ça, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de femmes travaillent maintenant qu'avant, que tu vois, dans les années 60, etc., quand il y avait beaucoup plus de femmes qui restaient à la maison. Donc ça a pris plus de 40 ans pour monter par 6 pourcentages. Donc ils pensent que peut-être on est déjà vers la limite, vers la hauteur du taux de participation. Donc on ne peut pas vraiment compter sur ça pour pousser l'économie, pour grandir l'économie. L'autre problème, c'est la question de productivité. Et encore une fois, ils disent que avant la pandémie, le taux de productivité avait ralenti énormément ici en Australie. C'est sûr que maintenant, on voit que un travailleur en Australie, dans une heure, fait autant de travail que ça prenait une journée entière de faire en 1901. Donc ça a changé énormément, mais depuis plusieurs années, ça a ralenti et vraiment la productivité ne montait plus beaucoup du tout. Donc ça laisse population et c'est pas facile d'encourager les gens d'avoir plus d'enfants. Là, on se demande ce qu'on peut faire avec l'immigration. En Nouvelle-Galles du Sud, les bureaucrates ont conseillé le premier, Dominique Perrottet, de pousser pour un débat, un dialogue sur une hausse agressive du taux d'immigration, parce qu'ils voient que ça, en fait, c'est clé pour faire grandir l'économie après la pandémie, puisqu'on ne peut pas tellement compter maintenant sur le taux de participation ou le taux de productivité.
Et puis, de bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles aussi pour les gens qui remboursent une hypothèque sur leur maison ou appartement.
Voilà, donc ça c'est presque tout le monde, ou beaucoup de gens de toutes les façons. Et ça c'était pendant un discours par le gouverneur de la Banque centrale, Philip Lowe. Il était en train de parler cette semaine à un déjeuner des Australian Business Economists. Donc il avait un travail pour tous les Australiens qui travaillent pour rembourser leurs prêts, pour payer pour leur maison, leur appartement. Et d'abord la bonne nouvelle, il a dit qu'il voulait répéter ce qu'il avait déjà dit, c'est que selon les prévisions économiques, le taux d'intérêt ne va pas monter en 2022, l'année prochaine. Donc les taux d'intérêt vont rester encore très bas, ce qui est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'ils ne vont pas devoir payer plus d'argent. Et il a dit que la Banque centrale est prête à prendre son temps, à être patient à propos du taux d'intérêt et qu'il pense qu'en fait le taux ne va pas monter avant même 2024, donc vraiment très très longtemps. Je ne suis pas sûr que tous les économistes, tous les analystes sont d'accord avec lui, mais ça veut dire que pour les taux d'intérêt fixes des banques, ça peut monter, mais les taux d'intérêt variables des banques, qui est plutôt lié au taux de la Banque centrale, ça devrait rester assez bas pendant assez longtemps. La mauvaise nouvelle, c'est que en fait le taux de participation, comme on vient d'en parler, dans le marché du travail, est déjà assez haut et ne va pas probablement monter beaucoup plus, et que les salaires vont rester où ils sont. Donc les salaires, comme on a souvent dit, ne montent pas en Australie, ça reste à peu près où c'est déjà, et que bon, si les salaires vont monter, ça va être que lentement. Donc pour les travailleurs, vraiment pas de bonnes nouvelles là, ils vont pas avoir plus d'argent dans la poche, et ça c'est aussi lié au fait que la Banque centrale pense que le taux d'inflation ne va pas arriver à un niveau où ça va aider à pousser les salaires avant la fin de 2023, même un peu plus tard après ça. Donc, il dit qu'en Australie, c'est une forme de stabilité, mais une forme de stabilité qui n'aide pas vraiment les gens à gagner des meilleurs salaires. Donc, pour lui, l'incertitude, c'est plutôt ce qui va se passer une fois qu'on ouvre les frontières et pour voir si les gens vont arrêter d'économiser autant ou si s'ils vont consommer plus comme ils faisaient avant la pandémie. Donc c'est tout est en flux en ce moment et c'est vraiment la réouverture de l'Australie, des frontières domestiques internationales qui va montrer plus clairement ce qui se passe avec l'économie australienne dans l'année et les prochaines années à venir.
Merci Nicolas pour cette analyse. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
13 heures et bientôt 40 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. Et après une pause de 36 secondes, on va parler des aventures d'Astérix en bande dessinée. C'est à l'occasion de la parution du dernier album Astérix et le Griffon. Et bien Jean-Yves Ferry, le scénariste des aventures d'Astérix en bande dessinée, il s'est confié à l'Alliance française de Sydney récemment. Et Grégory Pless, notre collègue, va nous en dire plus.
Radio SBS.
Bonjour à tous. Il y a quelques jours, l'Alliance française de Sydney a organisé une rencontre virtuelle avec Jean-Yves Ferry. Jean-Yves Ferry, depuis 10 ans, il est le scénariste des aventures d'Astérix en bande dessinée et il a donc répondu aux questions de Philippe Osterman, le directeur de l'Alliance française de Sydney, à l'occasion de la parution du tout dernier album et des dernières aventures d'Astérix, Astérix et le Griffon. Je vous propose d'écouter une version courte de cet échange.
Jean-Yves, même si nous nous connaissons depuis des temps immémoriaux, bien avant l'invasion de la Gaule par l'Empire romain, nous essaierons de nous vouvoyer pendant cette émission. Vous avez publié vos premières bandes dessinées dans le mensuel Fluide Glacial, mensuel d'humour et de bandes dessinées fondé par le génial Marcel Gottlieb. Et on parlera un tout petit peu de Marcel Gottlieb à un moment dans la conférence. Bien que vous soyez avant tout un auteur complet, dessinateur et scénariste, notamment du formidable De Gaulle à la plage, vous vous êtes illustré en tant que scénariste, d'abord pour Manu Larsonnet avec Le Retour à la Terre, puis comme successeur d'un monument de la bande dessinée, René Goscinny, avec la bande dessinée la plus vendue au monde, juste après le manga One Piece, Les Aventures d'Astérix le Gaulois. Astérix, c'est vraiment un monument, c'est la bande dessinée française, donc la plus traduite dans le monde entier, qui existe dans plus de 100 langues et énormément de langues régionales. 4 films qui ont tous été des succès absolument colossaux au cinéma en France et partout en Europe. 10 dessins animés qui ont eux aussi été d'énormes succès et qui ont d'ailleurs été présentés à l'Alliance française French Film Festival pour la plupart. Je vous propose, avant que nous passions à Astérix, de vous présenter en quelques mots et d'évoquer au début en bande dessinée. D'abord, je crois que vous ne veniez pas d'un milieu artistique. Comment vous êtes venu cette envie de dessiner et de raconter des histoires?
Bon, j'appartiens tout simplement à une génération, donc celle des années 60, où la bande dessinée était un peu centrale, c'est-à-dire qu'elle représentait beaucoup pour nous, jeunes lecteurs à l'époque. C'était un peu dans la bande dessinée que se passaient les choses en France à cette époque-là. Donc tout naturellement, je suis allé vers la lecture de la bande dessinée. Et tout naturellement aussi, c'est vers ça que j'ai essayé d'aller quand je suis devenu dessinateur petit à petit, à partir du lycée jusqu'aux années, on va dire, où j'étais étudiant. J'ai fait un passage aux Beaux-Arts et puis tout naturellement, j'ai essayé ensuite de travailler d'abord dans l'illustration enfantine, dans la presse jeunesse et puis dans la bande dessinée à partir des années 90.
Vous avez rencontré Manu Larsonnet, donc. Là, vous êtes arrivé chez Dargo avec Le Retour à la Terre. Le Retour à la Terre, vous pouvez nous pitcher en quelques mots?
Alors, Le Retour à la Terre, c'est une série qu'on a décidé de faire avec Manu Larsonnet. Il faut savoir que Manu Larsonnet était un Parisien qui a décidé un jour d'aller vivre à la campagne. Et ça l'a un petit peu effrayé au départ. parce que c'était un vrai citadin finalement, et il se retrouvait dans un environnement assez nouveau. Et moi, en tant que scénariste, j'ai tout de suite vu qu'il y avait là moyen de raconter des choses amusantes. Donc, je me suis mis à scénariser les aventures de Larsenet, du vrai Larsenet, arrivant à la campagne. Et lui, en tant que dessinateur, a dessiné cette série un peu comme un acteur. Il s'est dessiné comme un acteur. Voilà, alors c'est une série qui nous tient à cœur parce qu'il y a le fond qui est réel, c'est-à-dire que le vrai Larsenet existe. Mais finalement, c'est de l'imagination parce que j'ai imaginé la vie de Larsenet dans son nouvel environnement.
Pour les Australiens qui nous écoutent, le retour à la Terre, c'est un peu comme si un habitant de Sydney ou de Melbourne allait s'installer en plein milieu de l'outback et découvrir la vie là-bas. Et donc, c'est effectivement extrêmement drôle. Mais là, vous n'étiez que scénariste. Et vous avez ensuite proposé à Dargaud De Gaulle à la plage.
Voilà, alors De Gaulle, peut-être que vous autres à Sydney, vous croyez que De Gaulle est un personnage historique. En fait, non, c'est un personnage que j'ai inventé, bien sûr. Non, ce qui est amusant, c'est que De Gaulle à la plage, c'est pareil, c'est un fond historique parce que je choisis une période de la vie du général De Gaulle, mais j'invente une sorte de contexte où il est en vacances au bord de la plage. Voilà, c'est un peu le sujet de cet album.
C'est très, très drôle. Et donc, oui, De Gaulle et Le Retour à la Terre vous ont donné une certaine visibilité. C'est des vrais succès qui sont vendus chacun à plus de 100 000 exemplaires en France, ce qui est déjà beaucoup. Et du coup, comment ça s'est passé? On vous a appelé pour faire Astérix.
Alors, Astérix, c'est encore une autre histoire, c'est-à-dire que Albert Uderzo, qui était donc le dessinateur historique de la série, a décidé de prendre sa retraite, finalement. Et il a confié le personnage aux éditions Hachette. Et les éditions Hachette se sont mises à la recherche de deux nouveaux auteurs. Donc, il y a pas mal d'auteurs en France qui ont été approchés pour continuer la série Astérix. Dont moi. Et bon, j'étais pas très très chaud parce que évidemment Astérix c'est une série un patrimoine ici, un peu difficile quoi de penser à la suite, à poursuivre ce genre de série. Mais finalement bon, j'ai essayé, j'ai proposé un pitch et bah Uderzo a choisi ce pitch et du coup bah voilà, je me suis trouvé à devoir écrire cette première histoire, voilà, et depuis, tous les deux ans, on a sorti un album, donc on en est au cinquième album de cette reprise, voilà, le dernier qui est là, dans mon dos.
Quand on vous annonce que vous allez succéder à ce qui est sans doute le plus grand scénariste de la bande dessinée, René Goscinny, qui est donc le scénariste créateur d'Astérix, mais aussi le scénariste des meilleurs Lucky Luke, le scénariste des Dingo Dossiers, le scénariste d'Is No Good, l'écrivain du Petit Nicolas, qui est un génie absolu de l'humour. Qu'est-ce que ça fait quand on vous annonce ça?
Ben, on essaye de pas trop y penser, en fait, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas rivaliser. Simplement, on se concentre sur l'histoire qu'on invente, quoi. Donc, tout en sachant que c'était presque impossible à faire, bon, on essaye. Et effectivement, je me suis aperçu qu'il fallait plusieurs albums, finalement, pour prendre possession, en tout cas pour Astérix, de cet univers-là. Ça peut pas se faire en un seul coup. Et je dirais que c'est avec ce dernier album que je me sens enfin un peu plus libre et un peu plus proche de ce que je peux faire pour Astérix.
Avant de parler du dernier album, donc Astérix et le Griffon, il y a quand même quelque chose autour d'Astérix qui est pour moi incroyable, même s'il y a des tonnes d'explications, mais qui est incroyable, c'est le succès international de cette série. Et donc, comment cette série qui parle d'un petit village gaulois, qui est quand même extrêmement, extrêmement française dans beaucoup de ses références, comment, à votre avis, c'est devenu un succès international qui est lu en Australie, où c'est une
c'est la plus grosse vente de bande dessinée en Australie, et c'est 70 000 exemplaires, ce qui est énorme en Australie, mais aussi dans des pays comme le Vietnam, comme l'Argentine, comme en Afrique, partout dans le monde. En fait, il y a des lecteurs qui se reconnaissent dans Astérix.
Moi, ma théorie, c'est que Astérix, c'est pas si français que ça. N'oublions pas que Goscinny était quelqu'un qui venait aussi, qui avait vécu son enfance à l'étranger, en Argentine. Uderzo était fils d'Italien. Et donc, le regard qu'il porte sur la France et sur les Français est un regard un peu avec beaucoup de recul. Et je crois que dans beaucoup de pays, du coup, on a pu retrouver un peu ce rapport qu'on a avec le village, le petit village de base du pays, et le recul qu'on peut avoir sur ses propres stéréotypes. C'est-à-dire que Goscinny avait le regard sur, on va dire, les travers et les côtés amusants des Français, mais qui ne concernent pas que les Français. Ce sont les idées reçues qu'on a partout dans le monde entier. D'ailleurs, les Allemands, souvent, croient que Astérix est allemand. Parce qu'en fait, dans chaque pays, la traduction, et le traducteur est obligé de mettre tout ça à la sauce du pays, ce qui fait que le lecteur croit souvent que c'est une série qui appartient à son pays. Enfin, dans le cas de l'Australie, c'est plus difficile parce que... Mais en Europe, c'est comme ça.
La légende veut, et je ne sais pas si c'est vrai, mais je crois que c'est vrai, que Goscinny faisait traduire, quand il y avait une traduction anglaise ou une traduction allemande d'Astérix, il faisait traduire du français vers l'anglais à un traducteur, et ensuite il faisait retraduire par un autre traducteur de l'anglais ou de l'allemand vers le français pour vérifier que le traducteur n'avait pas dénaturé son travail. Est-ce que vous faites ça aussi, vous ?
Alors, chez l'éditeur, il y a effectivement quelqu'un qui est chargé de recevoir les traductions et de les traduire à son tour pour voir si l'esprit est toujours là. Mais pour en revenir à Goscinny, c'est vrai qu'il avait dit que la traductrice en Angleterre faisait un travail formidable et que Astérix chez les Bretons, par exemple, était meilleur en anglais pour Goscinny que l'original. Elle avait trouvé tout un tas de manières de rendre l'humour de l'album. Par exemple, Goscinny jouait beaucoup sur les traductions littérales de l'anglais pour faire rire les Français. Alors elle la traductrice, elle ne pouvait évidemment pas jouer là-dessus. Elle a joué sur des formules un peu vieil anglais et ça marchait tout aussi bien.
On va parler maintenant du nouvel album, donc Astérix et le Griffon. Ce Griffon, il est effectivement, et c'est une des subtilités, je trouve, de l'album, dont sur beaucoup de vases romains, qu'on voyait d'ailleurs à l'époque où Uderzo dessinait déjà et où Goscinny scénarisait. Et c'est de là que vous est venue l'idée ou ça vous est venu comment ?
L'idée vient en fait d'un thème que je voulais aborder, qui était celui à l'époque des sectes. Parce que sous les Romains, il y avait beaucoup d'histoires de sectes. Et de fil en aiguille, je suis arrivé aux représentations, aux idoles. Et le plus simple était d'utiliser une idole connue des Romains. Donc là, ça a été le Griffon. Et après, la question du scénario, ça a été où est-ce qu'on trouve le Griffon ? Et ça m'a amené à baser l'histoire à l'est de l'Europe, dans des régions qui vont de l'Ukraine au Kazakhstan à la Russie, qui à l'époque étaient évidemment des territoires inexplorés par les Romains.
Que ce soit Goscinny ou que ce soit vous, vous travaillez énormément sur des faits réels, des faits existants. Donc maintenant, vous êtes devenu un spécialiste de l'histoire romaine ou...
Pas tout à fait, mais disons que j'aime bien partir, peut-être davantage que Goscinny. Ça m'aide de partir de quelque chose d'historique. Le papyrus de César, ça partait de l'état du livre à l'époque des Romains. Il y avait eu aussi la Transitalique qui s'était intéressée à l'état des routes et du réseau routier en Italie à l'époque des Romains. Dernièrement, la fille de Vercingétorix, c'était quand même un peu le contexte d'Alésia et du chef gaulois. Et cette fois-ci, c'est le Griffon, donc c'est les peuples de là-bas, quoi.
Vous travaillez sur des documents d'historiens. Comment vous faites, en fait ? Quelle est la documentation
Justement, à chaque fois qu'il y a une histoire qui est en cours, je vais chercher un peu ce qui se passe pour le pays en question. Là, sur les Sarmates, qui est ce peuple qui vit dans l'est de l'Europe à l'époque d'Astérix, il y a peu de documents, mais il y en a quand même quelques-uns. Évidemment, après, il faut délirer à partir de ça, hein, il ne faut pas rester là-dessus. On voit César dans cet album qui dit qu'il avait écrit, dans sa guerre des Gaules, il a écrit que les licornes, qu'il y avait des licornes en Germanie. Il dit ça à son géographe dans l'album, et ça, c'est effectivement vrai. C'est-à-dire que si vous lisez la guerre des Gaules, il y a un passage où j'allais dire De Gaulle, non pas De Gaulle, mais César, situe des licornes en Germanie.
D'accord. Et vous parlez du géographe. Alors le géographe, pour les Français, c'est quelqu'un de très connu.
Oui, le géographe a les traits d'un écrivain français dans l'album, qui est Michel Houellebecq, et qui fait assez polémique, donc qui est un personnage un petit peu sulfureux, mais qui surtout là avait la tête de l'emploi.
Il y a une très bonne suggestion d'Abel, qui a 7 ans, et qui dit que pour faire venir Astérix en Australie, il faut qu'il se fasse emprisonner par les pirates et qu'il dérive vers l'Australie.
Ça prendra 3 ou 4 albums, ouais. Mais c'est possible.
Merci beaucoup Jean-Yves et à très bientôt.
Merci Philippe et merci à tous.
Un dernier mot également pour préciser que les dernières aventures d'Astérix, Astérix et le Griffon, devraient arriver dans les librairies australiennes d'ici quelques jours, quelques semaines au plus tard, à la fois en français mais aussi en anglais, et qu'il sera également prochainement disponible pour être lu dans la bibliothèque de l'Alliance française de Sydney.
Vous écoutez Le Français sur Radio SPS.
Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission de ce 18 novembre. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous, samedi à 13h. Et je vais vous laisser maintenant en compagnie avec Je tiens d'elle. C'est un extrait du nouvel album de Bernard Lavillier. Belle journée à tous et à toutes et à bientôt.
C'est ma mère qui me l'a offert. Elle m'attend quelque part. Saint-Étienne, plus brave que belle, plus frère que fier, plus fier que celle qui m'ont pas souffert. Je savais pas bien comment devenir ce musicien, partir loin d'elle.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.